Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci d'être avec nous encore une fois cette semaine pour prendre des nouvelles du diocèse. On va commencer cette semaine, si vous voulez bien, par un petit mot en hommage à Madame le procureur Bérangère Prudhomme, qui est décédée en début de semaine subitement.
Eh bien oui, c'est une personne... Alors c'est pas elle qui était procureure de la République quand je suis arrivé, mais très très vite, elle a remplacé celui à qui elle a succédé, donc. Et on a fait connaissance, on a eu un long échange, on est revenu tout de suite sur le protocole que j'avais signé avec son prédécesseur quelques mois plus tôt. Et j'ai apprécié la disponibilité, le professionnalisme et la gravité simple et impliquée de cette personne, voilà, qui est une personne représentante de l'État, de la justice, qui est importante dans un département, et avec qui on est amené à avoir quelques relations. Et j'ai été en effet très... très surpris, mais aussi très peiné, sincèrement, d'apprendre sa disparition dans ces conditions. Et voilà, et j'espère que le tribunal sera doté très vite de nouveaux procureurs de la République, parce que des tas de gens attendent que justice leur soit rendue et que voilà, c'est important. C'est une fonction. J'ai découvert que c'est une fonction vraiment importante de service de l'État, mais de service des personnes aussi. Et donc, je veux rendre hommage à cette personne qui a sans doute servi l'État et sa fonction avec beaucoup de compétences à ce que j'ai pu voir et de dignité à ce que j'ai pu ressentir.
Merci, Monseigneur, pour cet hommage. C'était important. Alors, il y a quelques jours, c'était la Saint-Joseph, le 19 mars, et vous avez été invité par les AFC, les associations familiales catholiques, à fêter cet événement avec des hommes qui vivent dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Cet événement vous a marqué, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, tout simplement ?
M'a marqué, oui. Enfin, voilà, j'ai été touché par le fait d'accompagner et de répondre à cette invitation, donc, en effet, formulée par les associations familiales catholiques du département. Avec un a priori, j'ose l'avouer, je me méfie un petit peu de ces mouvements virilistes qui se développent comme ça, ici et là, en Amérique, en France. Bon. Et c'est avec ce regard-là que j'avais abordé, que j'ai abordé, je l'avoue très humblement, un petit peu cette invitation. Mais le temps, la rencontre, la célébration de l'Eucharistie d'abord, qui avait beaucoup d'allure, et puis le temps très très fraternel, convivial, partagé après, autour d'une tartiflette, était extrêmement sympathique. Et je me suis rendu compte que les 60 ou 70 hommes qui étaient là, ou peut-être plus, je ne sais plus, finalement, ce n'était pas idiot du tout, loin de là. Ça avait beaucoup d'allure aussi, parce que ceux qui étaient là, c'était des hommes pères de famille, familles nombreuses, familles catholiques que l'on voit dans les paroisses le dimanche, mais aussi des célibataires, mais aussi des veufs, mais aussi des personnes divorcées, mais aussi des hommes seuls pour des raisons, pour une raison ou pour une autre. Et là, tous ces hommes, ils étaient à égalité les uns avec les autres. On ne distinguait pas qui était qui ou quoi. Et je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose de très, très intéressant au fond. Parce que pour un certain nombre d'entre eux, leur collègue est là avec sa femme et leurs enfants, lui, il se sent un petit peu marginal. Dans le genre de rencontre qui était celle vécue pour la Saint-Joseph, personne n'était marginal. Et je me dis, tiens, ça doit leur faire du bien. Et il y a sans doute quelque chose à creuser dans ce type de moment. Et en tout cas, c'était un moment très, très fraternel, très simple et très agréable.
Vous avez pu échanger avec eux. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher, tous ces hommes qui ont donc des profils différents dans la figure de Saint-Joseph ? Qu'est-ce qui les ressource ?
Bien, ça, j'en sais rien, parce qu'on n'a pas vraiment échangé, finalement, sur ce que Saint-Joseph leur inspire ou pourquoi Saint-Joseph... Mais j'imagine, Saint-Joseph, justement, il est à la fois père de famille, époux de Marie, mais à la fois dans une situation familiale et conjugale pas tout à fait habituelle et ordinaire. Et après tout, il peut être un modèle pour tous. Sans exception, et voilà, c'est quelque chose qui ne m'était pas venu vraiment à l'esprit jusque-là, et que le fait de partager cette rencontre ce jour-là avec eux a éveillé, a creusé.
Alors après la Saint-Joseph, nous avons cette semaine, le 25 mars, fêté l'Annonciation et nous avons également fêté à cette occasion le 30e anniversaire d'Evangelium Vitae. C'est un enseignement de Jean-Paul II sur la sainteté de la vie humaine. À cette occasion, Gabriella Cambino, qui est la sous-secrétaire du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, a déclaré « Le temps est venu pour l'Église de construire une véritable pastorale de la vie humaine ». Alors j'ai deux questions à ce sujet. Et d'abord, la première, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'une pastorale de la vie humaine, ça sous-entend quoi ?
J'aime repérer que, et dire parfois de manière un peu provocatrice, vivre ne va pas de soi. On ne vit pas sans faire exprès. Et c'est une prise de conscience que l'homme de la Bible a faite très très tôt, puisque dans le livre du Deutéronome, il y a cette formulation, cette forme de commandement. « Je place devant toi la vie ou la mort, choisis donc la vie ». Et c'est un commandement de Dieu, choisis la vie. Ben oui, enfin, comme si ça. Évidemment, je ne vais pas choisir la mort, comme si ça n'allait pas de soi de choisir la vie. Et bien justement, en y réfléchissant, et quand on observe l'histoire du monde et nos propres histoires, choisir la vie ne va pas de soi. Donc, premier point. Et choisir la vie est l'objet d'une décision, et d'une décision qui, pour le croyant, est soutenue par la foi. Ne pas choisir la vie, c'est, de fait, laisser la mort l'emporter. Et on est confronté à ce constat que, ma foi, c'est bien vrai, que nos sociétés, si elles ne sont pas délibérément des sociétés qui choisissent la vie, laissent la mort prendre le relais et même promeuvent la mort, éventuellement. Donc Jean-Paul II, dans Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, précisément attire notre attention sur le fait que la vie doit être l'objet de beaucoup d'attention et d'un choix. Et j'ai repéré aussi que dans la bulle d'indiction de l'année jubilaire du pape François du mois de mai dernier, annonçant l'année jubilaire puis donnant quelques repères sous le thème qu'il a choisi, « Pèlerin d'espérance », propose 10 signes concrets d'espérance. Et parmi ces 10 signes concrets d'espérance, le deuxième ou le troisième, je crois, est précisément le fait de manifester dans le courant de l'année jubilaire, que les chrétiens, que les croyants manifestent dans le courant de l'année jubilaire une promotion de la vie choisie, de la vie transmise, et qui vient s'opposer à la culture qui consiste à refuser de transmettre la vie qui se développe parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a de l'inquiétude, parce qu'il y a du chômage, parce que le monde est troublé et perturbé. Beaucoup de gens renoncent à transmettre la vie, à donner la vie, à engendrer. Et des projets de loi chez nous sont des projets de loi qui encadrent la mort, promeuvent la mort, choisissent, parce que vivre est devenu trop difficile. Voilà. Et donc, l'évangile, lui, est un évangile qui nous tourne vers la vie qui vient de Dieu, la vie qui est à promouvoir et à choisir, précisément à choisir. Et ne pas choisir la vie, c'est de fait, choisir la mort. Vous savez, quand on récite le « Je confesse, j'ai péché » en pensée, en parole, par action et par omission. Eh bien, ne pas choisir par action la vie, c'est par omission, de fait, choisir la mort.
Et parfois, ce choix, on peut le faire pour les autres. C'est-à-dire que choisir la vie, c'est choisir la vie pour soi, mais aussi choisir la vie pour les personnes, les petits, les faibles, les vulnérables, pour qui on a la possibilité parfois de choisir la mort ou la vie.
Ben, c'est choisir la vie. Voilà. On l'a choisi dans toutes les dimensions de l'existence. On ne la choisit pas dans certaines circonstances et puis pas dans d'autres. C'est soit on la choisit, soit on ne la choisit pas. Et ne pas la choisir, c'est choisir la mort de fait. Et voilà. Et donc, les chrétiens, la foi nous donne d'être porteurs d'une bonne nouvelle à propos de la vie. Mais c'est une posture, finalement, une posture militante et pourquoi pas politique, j'ose le terme.
Alors, dans cette pastorale de la vie humaine, on entend quelque chose qui est lié à la pastorale liée aux familles, bien sûr. Comment ça pourrait-il être mis en place dans notre diocèse ? Avec quel contour ? D'abord, est-ce que c'est un projet pour vous ? Et puis, avec quel contour une pastorale de la famille ou de la vie humaine pourrait-elle être mise en place ?
Bien précisément, hein, dans toute la dynamique générale dans laquelle nous sommes engagés depuis plus d'un an et demi, bientôt deux ans, mois de mai 2023, c'est précisément pour que ne pas se contenter de gérer la mort, de gérer la faim, de gérer la fermeture de la boutique, mais précisément de nous remettre en disposition ou en dispositif de vitalité et de vie, de promotion de l'Évangile qui tourne nos yeux vers le ciel. L'année jubilaire le fait avec cette vertu de l'espérance qui est là pour nous guider. Et donc, toute la réflexion que fait le diocèse en ce moment, de réforme des paroisses, mais aussi de réforme des services, c'est précisément pour que notre corps commun, notre corps ecclésial, soit un corps dans lequel circule la vie qui vient de Dieu et transmette cette vie toujours plus et toujours mieux. Alors, dans toutes les dimensions de la vie de l'Église, de sa mission, et donc, bien évidemment, à destination des familles et de toutes les familles, à destination des jeunes, à destination des anciens, à destination de ceux qui sont malades, à destination de ceux qui veulent mettre un terme à leur vie. Voilà, cette dynamique de vitalité voulue, eh bien, l'ambition et qu'elle rejoigne en effet tous les lieux où elle est mise en danger, où elle est compromise.
Mais ça veut dire que ça n'est pas le seul souci de quelques services qui sont directement liés à une pastorale bien cadrée, bien définie, et que ça doit être un peu transversal dans le cœur de chacun, de chacune, de tous les baptisés, et de tous ceux qui sont en mission, peut-être un petit peu davantage, un petit peu comme la question de vocation. Je dis ça parce que je vous ai entendu à propos des vocations dire que justement, ce n'était pas la seule affaire d'un service vocation, mais que ça devait être le souci, un souci dans le cœur de tous les chrétiens.
Même si c'est encouragé, porté, et la préoccupation particulière de quelques personnes, mais ces quelques personnes auront la mission de sensibiliser l'ensemble des fidèles du diocèse, des acteurs de sa mission, services, paroisses et tout ce qu'on voudra, que, en effet, tout est au service de la vie qui vient de Dieu et de la vie que l'on doit transmettre comme un signe d'espérance.
Allez, on termine avec un petit point sur les visites pastorales. Vous étiez dans les baronnies en début de semaine, dimanche 23 et lundi 24 mars. Dans les baronnies, vous avez rencontré une communauté chrétienne dont l'ADN, c'est vraiment l'accueil. L'accueil à tous, vivre avec tout le monde, y compris ceux qui ne connaissent pas le Christ, y compris ceux qui n'ont jamais entendu parler du Christ, avec ce souci de vivre avec eux et de quand même, malgré tout, être porteur de la bonne nouvelle pour ces personnes-là. Ça, c'était très touchant.
Et ils le sont vraiment. Un compagnonnage au long cours des prêtres qui sont là, avec des gens qui habitent ce territoire, qui est un pays, finalement, que j'ai découvert. J'avais traversé cette région très belle des baronnies plusieurs fois, bien évidemment. Mais d'y séjourner, d'entrer plus dans les pores de ce pays-là, m'a permis de découvrir une communauté humaine qui fait corps, avec des visages différents, avec d'est en ouest des villages qui ont des physionomies différentes, des histoires différentes, etc. Mais de rencontrer une famille, et une famille chrétienne qui fait corps avec la famille humaine globale de ce pays-là. Et ma foi, avec beaucoup d'estime, de respect, de compagnonnage. J'aime bien ce mot parce que finalement, j'ai dû utiliser quelque part l'image de Dieu qui fait la même chose avec notre propre humanité avant d'entrer dans la révélation de ce pourquoi Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Il y a quand même eu d'abord 30 ans de compagnonnage, tout simplement, de vie avec, sans rien faire d'autre, vivre avec, s'imprégner de ce qui fait la vie de tous, pour pouvoir ensuite irriguer de l'intérieur la vie de Dieu. Et c'est quelque chose de cet ordre-là que j'ai senti de manière particulièrement forte dans cette visite pastorale.
Merci beaucoup, Monsieur Micard. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres nouvelles. Vous nous parlerez sûrement de l'Assemblée plénière des évêques de France qui commence en début de semaine.
Eh bien, avec plaisir. Bonne semaine à tous.